par le ventre de séduction. J'ai policé, je passe mes idées reçues. Ça me fout la trique que nos têtes prennent le dessus. Je veux vous entendre voir, vous regarder, écouter. Que vous soyez naïf de cette scène libérée. Que cette scène reste indemne, Eden t'emmène sans haine, puis ramène peine des textes à terme. La feuille blanche est mon terrain de jeu, mes crampes pour écrivain ou l'orgueil penche. Entendez-vous, il ira pour compteur, les rimes dans le chargeur. Je deviens le crâneur, le stylo devient une arme blanche. Et puis l'autre premier rang, le mic en manche. Vos textes vous vivra pour poésie. Et vous sur scène, c'est nous qui serons ravis.
Bonjour et bienvenue dans Au Slam, etc. La mensuelle slam des slam timbang sur Bob FM. Nous revoilà. Et oui, on ne sait pas pourquoi, mais ils nous ont gardés, nous, les parasites de la chanson française. Pour cette deuxième, nous nous sommes fait violence pour un grand élan de présentation. Ils ne voulaient pas qu'on le dise à la direction, mais chut, ça compte pour la note. Je suis Fabrice, slameur amateur, et je vais vous affranchir de l'histoire ordinaire de cet art atypique qu'est le slam.
Alors bonjour, je suis Eva et je vais vous présenter aujourd'hui un slameur parisien, un véritable poète moderne et qui s'appelle Le Robert.
Ouais, c'est Christian Brissard. Je vais vous présenter un gros costaud né en 49 à Saint-Étienne sous le nom de Bernard Houillon.
Mais c'est historique. Salut, c'est Fabrice. Je suis là devant le micro pour vous causer de cet art nouveau qu'est le slam. Mais c'est historique. Rapide récapitulatif du dernier épisode. Dans les années 80, naissance du mouvement slam. Année 85, baptême orchestré par Mark Smith, alias Slam Papi. Puis ralliement au mouvement dénommé Spoken Words, dont fait partie Allen Ginsberg. Allen Ginsberg, poète américain de renom, qui fut et restera toujours une source d'inspiration pour le mouvement slam, comme par ailleurs beaucoup d'autres poètes américains. Encore plus éloigné de nous dans le temps, le meilleur des exemples serait pour moi Walt Whitman, dont on conserve cette image de vieux barbu charismatique qui s'illustra il y a déjà un siècle de ça. Et comme il ne faut pas modifier une formule qui fonctionne, voici, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce qu'est la poésie en VO, s'il vous plaît, de Walt Whitman, et plus précisément un des textes qui fit sa gloire. Aussi, à mon humble avis, le morceau qui suit risque fortement de vous dire quelque chose.
Oh, Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack. The prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting. While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But oh, heart, 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 oh, the bleeding drops of red, where on the deck my Captain lies, fallen. Cold and dead. O Captain, my Captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you bouquets and ribbon wreaths, for you the shore is a crowding. For you they call, the swaying mass, their eager faces turning. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you've fallen, cold and dead. My captain does not answer, his lips are pale and still. My father does not feel my arm, he has no pulse nor will. The ship is anchored, safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip the victor ship comes in with object won. Exult, O shores, and ring, O bells, but I, with mournful tread, walk the deck my captain lies, fallen, cold, and dead.
Oh, Captain, my Captain, extrait de Leaves of Grass, en français Feuilles d'herbe, un hommage à Abraham Lincoln, assassiné en 1865. Mais c'est historique! Eh oui, un siècle plus tard, le slam continue à baigner copieusement dans la culture traditionnelle de la poésie américaine, mais pas seulement. L'art du slam n'est que métissage de toutes les cultures afro-américaines, latino-américaines, africaines, latines, européennes, et de tous les mouvements, depuis le rock, le rhythm and blues, le reggae, et j'en passe et des meilleurs, jusqu'à la pop, allant même jusqu'à piocher dans le mouvement punk. Et j'en veux pour preuve le slammer écorché Nada, qui sort des titres du genre...
Nous nous sommes aspergés d'urine et nourris de nos excréments, par envie, par appétit ou pour conjurer l'ennui dans cet illustre château blanc. Plein de fantômes aux mœurs scato, avec nos pailles d'or et d'argent, nous avons prisé la coco. Les Mercedes me dégoûtant, les Ferrari m'incommodant, tous les bolides que tu m'offrais, sur l'autoroute je les crachais. Mille fois toi, ta mère et moi, nous avons fait l'amour à trois. Vous vous godiez à tour de bras, nous nous insultions dans la joie. Quand c'est son fait l'adrénaline, laissant place à la vérité, nous étions submergés d'un spleen que rien ne pouvait endiguer. Pétrifier la mort dans l'âme, sous le ciel bleu d'été, nos névroses nous disséquaient. Sans limite à nos excès, nous avons expérimenté la vitesse, les narcotiques, le sadisme et la volupté. Dans le haras de ton père, tu masturbais les talons noirs, pendant que j'enculais ta mère en éructant comme un soudard. Je te foutais dans le fouindé pour le sonder, maman entière, et tu bramais, prenant ton pied, des onomatopées guerrières. Ta mère avec son martinet s'acharnait à nous flageller, et la vue du sang l'excitant, elle se branlait en psalmodiant. Quand c'est ce qu'on fait l'adrénaline, laissant place à la vérité, nous étions submergés d'un spleen que rien ne pouvait endiguer. Au bord de la piscine, pétrifier la mort dans l'âme, sous le ciel bleu d'été, mon névrose nous dit ce qu'est.
C'était le titre Piscine de Nada, relativement punk, non ? Nada, dont Eva vous a peint le portrait le mois dernier, un portrait que vous pouvez retrouver sur le site www.les-edition-black-out.com, en écoute libre. Mais c'est historique ! Retour aux influences, et notamment au punk. Il me faut vous préciser que les premières scènes slam furent pour le moins agressives. En effet, pour le tout premier slam, Mark Smith voulait une bataille. Et ses deux premiers cobayes, Jean Howard et Anna Brown pour l'anecdote, endossèrent des tenues de combat cloutées et portèrent des armes. Lors de cette joute verbale, les poètes devaient user de leur poésie comme d'une méchante artillerie intellectuelle, arme de poétisation massive. Les arbitres, juges et bourreaux, étaient choisis parmi les auditeurs et, à l'aide d'un petit carton, ils attribuaient une note de 1 à 10 à chaque poème lu. À la fin du tournoi, les scores étaient additionnés pour déterminer le vainqueur. Le vaincu était condamné à mort et mené au bûcher. Entendez, condamné à mort lyrique et mené au bûcher de ses vanités. Derrière ces airs barbares et péremptoires, il s'agissait de faire comprendre au public que le slam, certes un combat, pouvait permettre aussi de s'exprimer avec une certaine subtilité et dans une vaste gamme d'attitudes, d'intonations, de sentiments, etc., etc. Aujourd'hui, c'est la même. Mais l'arène est remplacée par le ring et le combat se perpétue lors de violentes sessions telles que les bouches à oreilles slam, organisé sur Paname, match de boxe en prose auquel participent parfois de grands blacks qu'il ne faut surtout pas emmerder, comme Déprime de Cabale et sa voix électrique reconnaissable parmi mille, dont voici un titre.
Se travestir en orateur, des reptiles se sortent de sang déguisés en producteurs, la misère et la pauvreté vidées de toute poésie, des crevards croire qu'ils méritaient de l'or sur leur disque, des honnêtes gens se perdre dans un couloir, ces mêmes gens s'asseoir sur des accoudoirs, les mots terrifiés détroussés de leur sens, dans leur charter le vrai visage de cette France, ce pays s'embraser, hurler à la face du monde. Les quartiers jouaient la mélodie du tonnerre qui gronde. Des officiels dire que nos écoles étaient violentes. Les forces de l'ordre gazées chargées contre une mosquée. La liberté prendre une bien mauvaise pente. L'alcool détruire plusieurs dizaines de foyers. Des tueurs assermentés, mutés au baléares, des mères voilées par des regards agressés, leurs enfants défendent des valeurs d'égalité, la délation à l'encontre des étrangers sans carte de séjour, la démocratie élire Adolf Hitler un jour, tellement il n'y a refusé de poser les vraies questions, un programme mondial d'occidentalisation, des poignées de main ensanglantées autour de grandes tables de marbre, des chefs d'État se réjouir de leurs mœurs barbares. Des policiers avinés jouer les cow-boys. Des politiciens usés d'ados comme sex-toys. J'ai vu un homme violer sa mère sous les yeux de ton frère. Les pères et les potes anciens combattants sans statut. Un pouvoir raciste aux revirements incongrus. La mauvaise foi, le mensonge détruire tellement de vies. Au marathon condamné puis relâché dans l'oubli. Les artistes se perdent étouffés dans graisse et mourir. D'autres courir lentement rongés par leur mépris. La musique est dictée, jetée et soufflée dans les bacs. Encore quelques-uns qui pour elle toujours se battent.
C'était « J'ai vu » de Déprime, dans un tout autre style que le dernier morceau. Hein. Je pense à présent que l'éclectisme du slam n'est plus vraiment approuvé. J'en profite pour vous rappeler, ou pour vous apprendre, que les Slam Timbank organisent des scènes ouvertes de slam poésie deux fois par mois. Les deuxièmes jeudis du mois au matin, c'est la Don, le bar de la médiathèque de Limoges, et le quatrième jeudi du mois au Round Midnight, 12 avenue Gabriel Péri, à proximité de l'hôtel de région, à partir de 21h30 dans les deux cas. Nous vous attendons nombreux, et si vous n'avez pas eu le temps de noter, rassurez-vous, les ondes de Bob FM sont désormais là pour relayer nos actualités. Et avant qu'Eva me coupe la chic, vous la verriez trépigner dans ses starting blocks, impatiente qu'elle est d'entendre le coup de feu, le coup d'envoi libérateur, je vais lui céder ma place pour qu'elle vous présente un nouveau slammer français que nous aurons en ligne pour une interview exclusive.
Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous présenter donc le slammer Le Robert. Alors, tout commence pour lui en 99, âgé de 47 ans, Robert Persillon craque et démissionne de son travail de technicien de laboratoire photo, confiant dans sa capacité d'en retrouver. Sauf que, comme bien des métiers, le sien est en pleine mutation et le numérique remplace peu à peu le chimique. Alors s'ensuit un parcours du combattant de la reconversion professionnelle qui restera sans succès. Et le Robert va s'enfoncer dans la déprime. Et puis par hasard, en 2002, il rentre dans un bar de Ménilmontant où se déroule une soirée slam. Il est tout de suite séduit par le concept et il revient 4 mardis plus tard pour participer. Lorsque l'animateur lui demande son pseudo, il répond aussitôt le Robert, ce qui lui vaut aujourd'hui des présentations plutôt drôles du genre « il est venu sans sa copine Larousse » ou encore « il a autant de mots qu'Indico ». Les rencontres qu'il fait durant les scènes slam changent profondément sa vision des choses. Il se jette dans le mouvement et développe une certaine intolérance pour les déviants aux règles des scènes ouvertes. En général, durant les scènes ouvertes, le temps de passage sur scène ne doit pas dépasser 5 minutes. Le slammer ne doit pas utiliser d'accessoires ou porter de costume. Il se dit que jamais il n'aura recours à la musique pour accompagner ses textes, et puis un jour, il se laisse convaincre par un slammeur du nom de Yann Thomas, et se retrouve à déclamer un texte avec une formation jazzante. Et alors donc ce jour-là, il prend plaisir à transgresser les règles de cette manière, puis le bassiste qui l'accompagne ce jour-là, qui se nomme Gilles Moïse, est resté le bassiste et le percussionniste de son groupe. Plus tard, les hasards de la vie lui font rencontrer le pianiste Jérôme Bonin, qui fait aussi de la guitare. La première composition qu'il a fait sur le texte « Mon peuple » a ému et convaincu le Robert. Très beau texte d'ailleurs, que l'on écoute tout de suite.
Nous vivons dans des maisons d'architectes délurés, en forme de jouets, de ballons, de palais d'infortune, de manèges oubliés. Nous vivons dans des maisons qui flottent dans le ciel liées par des ponts de cordes. Dans la nuit, nos lumières pastels font des chapelets de silence entre les étoiles et les lunes. Nous vous apparaissons comme un animal mythique aux formes changeantes et imprécises parsemées de phosphorescence. Et les vents nous poussent vers le sud, l'essentiel est de rester ensemble. Au départ, nous n'étions que quelques-uns, nous avions découvert où prendre l'énergie. Chaque maison a son renifleur masqué pour capter les odeurs d'humus qui montent du matin, les subtiles pesanteurs qui règnent dans l'entre-étoile, les rires et les pleurs des moutards en quête de lait, les couleurs de l'horizon des lumières couchantes. Notre énergie, c'est l'essentiel, et nous poussons le temps à écrire des poèmes et à essayer d'aimer. Et les vents nous poussent vers l'ouest, l'essentiel est de rester ensemble. Pourtant, parfois, les tempêtes brisent nos liens, les ponts craquent et se rompent, nous sommes secoués, dispersés, nous nous accrochons à notre cité imprécise avec une volonté rageuse. Il arrive que l'ami tombe dans un cri muet, un cri d'incompréhension pour devenir rampant, marchand ou militaire ou destin mortifère. Nous savons alors que nous ne croiserons plus son déhanchement d'aéronaute, ses brefs saluts pudiques, son regard vers le sol lorsqu'il nous offrait un poème d'une voix de soierie, ni son énigmatique sourire qui annonçait une saillie ironique à laquelle nous nous accrochions l'esprit pour éviter de dériver trop dans notre univers insolite. Et les vents nous poussent vers le nord, l'essentiel est de rester ensemble. Mais nous nous retrouvons toujours, et d'autres arrivent encore pour tenter l'aventure. Pourtant, nous ne sommes guère exceptionnels. Nous nous laissons aussi attaquer par les pitoyables sentiments humains, comme ceux d'en bas aiment trop souvent le faire. Nous nous battons pour d'illusoires envies, des possessions fugaces, des pouvoirs inventés, des territoires jaloux, des amours passionnés, pour ressentir, dit-on, les sentiments de lutte, pour ne pas oublier que nous venons d'en bas, et l'on dit que c'est un jeu, mais certains d'entre nous portent discrètement les plaies de ces combats, sous forme de rides chagrin au coin des yeux plissés. Et les vents nous poussent encore, l'essentiel est de rester ensemble. Aussi, parfois certains lancent des grappins du sol pour nous ancrer au monde, nous donner la leçon éternelle. Et pour qui se prennent-ils cela dans leur maison volante? Quelle légèreté coupable! Il faut attendre la mort pour habiter les cieux. Nous leur rions au nez, coupons les amarres et nous faisons la fête d'alcool et d'amitié. Et nous faisons la fête d'achiche et vérité. L'essentiel est de rester ensemble. Les vents, enfin, nous poussent vers l'Orient fabuleux, car l'on sait, nous, poètes, que le plaisir céleste.
Le groupe a également croisé la route de Julien Bréval, un compositeur, pianiste et informaticien qui n'est pas resté dans la formation mais qui participe toujours pour des conseils techniques, électriques et sonores. Et depuis quelques mois, le guitariste David Rachetti intègre parfois le groupe et accompagne le Robert en duo pour des concerts plus intimistes quand il n'est pas possible d'avoir un piano sur place. Un petit appel au passage, le Robert et sa bande cherchent des salles et des dates. Quant au slammeur qu'il est, il continue à écumer les scènes, à écrire et à participer sans costume et sans accessoires pendant 5 minutes maximum, et en échange de son texte, espère un verre à boire. Alors on va écouter un autre texte avant de passer à l'interview, un texte qui lui va bien, La machine à écrire.
La machine à sentir auto-programmée. Je me dirige vers les odeurs et les lumières et les formes. Et les odeurs et les lumières et les formes se gravent sur des plaques photosensibles et se classent dans un capharnaüm prodigieux. Un grenier de ma grand-mère, une bibliothèque d'Alexandrie, une caverne poussiéreuse. Et je les oublie, et je les oublie. Machine à aimer, auto-programmée. Je me dirige vers les humains chauds. Je les regarde, je les écoute, je les caresse, je les choisis, je les joue, je les jouis. Et chaque moment est gravé sur des plaques de cuivre parsemées de fils d'or que je jette au fond du fleuve du temps, gonflé des larmes du regret. Et je les oublie, et je les oublie. La machine à ne rien faire, auto-programmée, qui laisse dériver dans ses tripes l'humeur du moment, aidée dans la passivité d'un verre, d'un joint, d'une cigarette, enfermée, loin du monde, oubliant le nom des choses et le décompte du temps, jusqu'à percevoir ce que j'imagine être ma liberté, comme un bateau fantôme sur une mer d'huile embrumée de chaleur moite, sans chef ni capitaine, et j'oublie tout, j'oublie tout. Je suis la machine à détester, autoprogrammée. Je me dirige vers chaque conflit, vers chaque haine. Je vibre de la violence du monde, presque à perdre dans cette vibration houleuse chaque particule de mon âme. Et je me délecte aussi de ma propre violence. Et toutes ces malsaines bouffées sont comme des nuages mauves que j'enferme dans un immense ballon, ballotté par des vents furieux. Et je les oublie, et je les oublie, et je les oublie. Soudain, je suis la machine à écrire. Mes doigts indépendants fouillent, cherchent, redécouvrent dans les bibliothèques, les greniers, les cavernes, au fond des fleuves, dans les nuées, dans le tout et le rien. Je suis la machine à écrire et ça gicle de mes doigts. Ça se construit inconsciemment comme un palais dont je ne suis qu'à peine l'architecte et seulement le prince de pacotille. Et parfois, parfois seulement, je sens que je suis un poète, un poète.
Allô? 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 Y a-t-il un slammer au bout du fil?
Alors bonjour le Robert.
Bonjour.
Alors la première question que j'ai envie de te poser suite à ta présentation, c'est est-ce que tu écrivais déjà avant de monter pour la première fois sur scène, ou bien est-ce que c'est le fait d'assister à une première scène ouverte qui a été un déclencheur au niveau de l'écriture?
Oh non, l'écriture, c'est une vieille histoire, c'est-à-dire que moi quand j'étais en scolarité, quoi, j'étais à peu près dans la mauvaise moyenne pour toutes les matières, sauf écrire, sauf ce qui était lié à l'écriture, c'est-à-dire bon, les rédactions, les dissertations, voilà quoi. Et puis j'aimais ça, donc j'ai continué un petit peu à écrire, je sais pas, jusqu'à l'âge de 21, 22 ans, ça me prenait de temps en temps. C'est-à-dire écrire autre chose qui soit autre chose que de la correspondance, des trucs comme ça, quoi, des petites fictions, des petites réflexions et tout. Et puis de temps en temps, je faisais lire ça à des copains ou à des copines et tout, puis je me suis aperçu souvent que je les gavais plus qu'autre chose. Et puis petit à petit, j'ai laissé tomber, quoi. que je suis un grand, grand lecteur. C'est-à-dire que j'ai jamais quitté le monde du mot et le monde de l'autre, quoi. J'arrive à lire des fois, puis je suis un lecteur extrêmement rapide, donc à lire 4-5 bouquins par semaine, quoi. C'était la folie, à une certaine époque. Et quand je suis arrivé sur le slam, je me suis rappelé de ça, quoi. Bon, par contre, la barrière, c'était la scène, quoi. Quand il y a cette différence, on est tout seul en train d'écrire, et puis, de monter sur scène et de lire tes textes, ce que tu as fait, c'est très, très, très intimidant. C'était pas du tout évident au départ.
D'accord. Alors justement, comme on a pu l'entendre, ton univers est très poétique, c'est à la limite du fantastique. Et puisque tu parles de tes lectures, justement, quelles sont tes influences au niveau de la littérature ou de la chanson ou,
Mes influences, moi j'ai une véritable passion depuis très très longtemps pour la littérature de science-fiction, héroïque fantasy et compagnie. Mais me faire parler de la science-fiction, c'est un jour, j'ai une émission sur la science-fiction, je suis prêt à intervenir, ça, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment un fan, ce qu'on appelle le fan de base, quoi.
D'accord.
Donc c'est sûr que ça en ressent, mais bon, je suis pas, j'aime beaucoup le polar aussi, j'aime beaucoup les biographies. Disons que les romans d'hypothèse, et si ça existait, qu'est-ce qui se passerait, ça j'aime bien. Et bien souvent, quand j'ai envie de parler de mes états d'âme, ou de parler de choses concrètes, ou de parler même disons politique, je préfère me décaler du réel, me mettre ça dans un monde imaginaire, quoi, plutôt que ou un monde moyenâgeux, ou un peu qui se décaler vraiment du réel, pour parler des choses. Déjà, ça prend une valeur un petit peu plus universelle, et puis, comment ça évite de blesser des gens, aussi, qui n'ont pas exactement les mêmes idées que soi, ou qui ne sont pas d'accord, quoi.
Alors, le slam a entre autres l'intérêt de faire se confronter des points de vue divergents, d'ouvrir un dialogue entre des personnes qui ne se seraient peut-être jamais adressées la parole dans la vie de tous les jours. Et dans ta biographie, tu précises que ces rencontres-là ont changé ta vision de la société. Alors, moi, j'aimerais bien savoir en quoi.
Avant, j'étais dans le monde du travail, j'avais ce qu'on pourrait dire ma petite vie. On se construit autour un petit peu de ça, autour de son boulot, des rencontres de travail, on se trouve quelques petites passions comme ça, mais au niveau social, en fin de compte, moi, je sais que j'ai toujours été conscient, bon, sans doute que j'avais un univers intérieur un peu particulier, quoi. Mais enfin, bon, pourquoi les autres aussi. Moi, je laisse libre les gens, quand je les rencontre, d'avoir leur univers à eux. De temps en temps, je parle du mien, mais j'étais assez timide et tout. Mais il y a des gens auxquels je serais passé totalement à côté si j'étais pas arrivé sur le stade. Déjà, tous les gens, déjà, qui viennent de la culture hip-hop, de la culture arabe, c'était un monde qui m'était totalement, mais vraiment totalement étranger il y a une dizaine d'années. Et puis, d'un seul coup, j'ai rencontré les gaillards qui arrivaient avec leur univers, leurs préoccupations aussi, leur manière de parler, de dire, et puis leur richesse de cœur à eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de refus a priori, je ne connaissais pas. Voilà, je ne connaissais pas. C'est quand même assez spécial d'écrire et être artiste, quoi, en fin de compte. Même, ne serait-ce qu'un tout petit peu, même si ce n'est qu'à travers le fait d'écrire un texte, de monter sur scène, même un texte mal foutu, etc., quand même, on se met un petit peu nu devant les autres, quoi, on se risque, quoi.
On va écouter un dernier titre du Robert, un texte qui s'appelle « L'ogre de Barbarie ».
On se construit des rêves ensemble qui ne sont pas les mêmes. On imagine qu'on se ressemble et que parfois l'on s'aime, alors on se rassemble. Tous ensemble, tous. C'était un beau jour d'été. Un homme arriva sur la place, une dégaine de vieil artiste, un nez rouge sous des yeux tristes, tirant une charrette à bras. Sur la charrette, un orgue de barbarie. Dans ses sacoches, quelques cartons troués de vieilles rengaines oubliées. Choisissez, voilà la liste, et nous chanterons ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous. Il a placé son premier carton, il a tourné sa manivelle. Son bras était tatoué de rêves, d'encre marine, d'encre de Chine. Son sourire ne changeait pas, son regard n'était sur personne. Toute la ville s'était rassemblée, tous ensemble, tous. Certains connaissaient cet air qu'on avait entendu naguère juste avant la dernière guerre. C'était sur un rythme ternaire, c'était léger, c'était souriant, ça faisait tourner les enfants, tous ensemble, tous. Et bientôt, on s'est mis à bouger pareil, c'était drôle, des jeunes jusqu'aux cartes vermeilles. On dansait, on oubliait qu'on était beau, qu'on était laid, qu'on était riche, qu'on était pauvre, on tressautait sur place. Tous ensemble, tous. Cela a duré des heures, on fermait les yeux de bonheur, les bras se tendaient vers le ciel, et quand le soleil a sombré, on s'est tous mis à marcher en cadence et en se suivant derrière l'organiste souriant. Quelqu'un avait mis des paroles sur la musique mécanique. Notre allure avait du cachet, du chic. Tous ensemble, peu s'écartaient du défilé qui nous éloignait de la ville. Certains qui voulaient faire une pause étaient ramenés souriants dans la file. Pour une fois qu'il se passait quelque chose, qu'on formait une communauté. Tous ensemble. Quand le silence se fit dans nos têtes, on était dans une grande plaine, le soleil se pointait à l'est, et l'on quittait une autre ville à l'odeur de poussière et de cendres. On avait des couteaux tranchants, quelques arquebuses, un canon, et beaucoup de sang sur les mains, tous ensemble. L'organiste avait disparu, le morceau s'était terminé dans un ricanement perforé. Sous les airs souriants de l'artiste se cachait l'ogre de barbarie. Et maintenant, dans nos chaumières, nous avons des silences entre nous. De vagues souvenirs refont surface, notre cœur est nappé de glace. Certains se rappelaient cet air. La honte, nous la partageons, qu'on avait entendu naguère. Une honte qui ne veut pas dire son nom, juste avant la dernière guerre, puisqu'elle n'était que de la musique. On se construit des rêves ensemble qui ne sont pas les mêmes. On imagine qu'on se ressemble et que parfois l'on s'aime. Alors on se rassemble, tous ensemble.
Alors, tu es monté plusieurs fois sur le ring de Bouche à Oreille Slam pour participer au tournoi. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus au niveau artistique, et est-ce que finalement c'est pas un trait d'union entre les scènes ouvertes et les concerts?
Bah oui, c'est sûr que c'est... Au départ, j'étais pas chaud, hein, je dois avouer que déjà, bon, le principe de ce qu'ils appellent des battles contre des gens qui sont édipiques, comme ça, etc. Moi, faut que j'écrive avant de parler, je suis un très très mauvais improvisateur, quoi. Je suis un petit peu lent de la tête à ce niveau-là. Et là, faut aller vite, faut aller rapidement, quoi. Moi, on m'envoie un texte, que je réponds, ça y est, pas de problème, et puis on peut s'amuser comme ça. Mais ça, j'avais un petit peu du mal, quoi. Je me suis retrouvé devant des gars comme Bouddha, disons, un peu sage et tout, qui ont vraiment, qu'on la tchatche, quoi. Et moi, j'ai pas cette tchatche-là, automatiquement. C'était dur pour moi. Donc, bon, j'étais un petit peu méfiant, j'y étais. Le côté, c'est vrai que dans le slam, il y a un côté, bien souvent, je faisais ça pendant les petits cafés, ou des petites pommes, des trucs comme ça. Là, on se retrouve les bouches aux oreilles au Trabendo. C'était assez dingue parce qu'on se retrouve déjà avec 400, 500 personnes. On se retrouve avec une foule. Il y a de la musique, il y a des projecteurs, il y a une ambiance, il y a une manière de mettre en valeur les intervenants d'une manière très très dynamique. C'est la piste aux étoiles, quoi. Et puis tu te retrouves avec ton texte, avec ton intimité par rapport à ça. Et puis je me disais, mais attends, c'est pas mon univers. Au départ, c'était ça. Et puis en fin de compte, un jour j'ai gagné au Trabendo dans un tournoi du Trabendo, quoi. C'était bon, il n'y avait pas grand corps malade, donc c'était facile. Parce que lui, il a vraiment gagné beaucoup de tournois avant. Il y avait vraiment du succès avant d'être connu, quoi, pour nous. Et quand il arrivait sur scène, il disait, ouais, ça va être encore lui, c'est bien. Voilà, c'était bien. Donc, il n'était pas là, un jour-là, et puis j'ai gagné. J'ai vu que, donc justement, il y avait des choses que j'avais pas tellement pigé avant le Trabendo, mais je me suis rendu compte que vraiment, quand on s'installe comme bonhomme sur scène, et ben on est un objet qu'il faut travailler. Il y a un artisanat de la scène qu'il faut trouver pour attirer l'attention, pour, suivant la taille de la salle, être plus ou moins expressif au niveau de la gestuelle, et tout comme ça. Il y a un métier. Et donc tout le problème a été d'essayer de garder la sincérité et l'âme d'un texte qu'on veut offrir, tout en ayant ces petits trucs de métier qui permettent vraiment d'être plus efficace. Et puis qu'on se rappelle de toi, que les gens, ils aient pigé le texte et ils sont heureux de t'écouter, de te retrouver. Et j'éprouve un immense respect maintenant pour tous ceux qui se bougent et qui vont sur scène, quoi qu'ils fassent. Parce que c'est vraiment, alors bien sûr, tu râles un peu quand tu commences et tu te rends compte de ça à plus de 50 ans, tu dis, bon, t'as l'impression que t'as du boulot à faire, mais c'est passionnant. C'est aussi passionnant. Et c'est un côté qui n'a rien à voir avec l'écriture. C'est totalement différent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de schizophrénie. C'est-à-dire la personne qui est sur scène est au service d'un écrivain. Voilà. En gros,
dates en préparation ou un projet d'album en cours?
Il y a un projet d'album en cours, là, bah, on y travaille assez sérieusement, comment on cherche le petit matériel, et puis on commence à bien travailler, voix, piano, la basse, la guitare, le djembé, on essaie de mettre tout ça bien, faire un truc, et puis on bosse là-dessus, on pense que ce sera prêt pour la rentrée, avoir un petit 8 titres, quoi. On essaie de pas faire un trop gros truc, on a choisi 8 titres dans tout ça, et puis on va essayer de le présenter, quoi. C'est un beau truc, voilà. Et c'est ça, c'est le travail de l'été.
Alors, les auditeurs peuvent te retrouver sur MySpace. Alors, il y a plein de vidéos sympas où on peut te voir en scène ouverte, des titres et ton actualité. L'adresse, c'est www.myspace.com/leRobert. Alors, merci d'avoir accepté de répondre.
Collé, le Robert.
Oui, collé. Tout attaché. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et puis, on espère te retrouver un de ces jours sur les scènes des Slam Timbanks.
Ah, ouais, pas de problème, j'y viendrai avec plaisir.
D'accord. Et bien, en attendant une invitation, je te souhaite une bonne continuation.
D'accord, ok. Bon, écoute, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, Eva, pour cette interview très enrichissante du Robert, ou de le Robert.
Roland Garros. Des fourmis dans les jambes, une termitière dans la tronche, pas dormir, pulsions chimio impuissantes. Il est temps que j'aille m'installer devant la poste, gobé Roland Garros. Ils m'ont réservé la place, la chambre, changé les draps, préparé les seringues et les autorisations de ne pas sortir. Et pour cela, de rester en pyjama, c'est plus facile à repérer un fou qui s'évade en pyjama. Roland Garros. Hôpital. Tichitarik, c'est la saison d'asile en hôpital psychiatrique, d'hôpital en centre hospitalier spécialisé, puis tombe le terme spécialisé pour juste préciser Esquirol. Les murs se sont désépaissis de pimpantes petites chambres individuelles. Une belle salle à manger qui donne, grâce à de belles baies vitrées blindées sur le parc, un patio pour les fumeurs et pour que ceux qui n'ont pas le droit de sortir respirent un carré de soleil. Rien n'a changé. Les infirmières sont toujours wesh. Les médecins sur les échasses, les cachets, et toujours assommants. Heureusement, il y a Roland Garros. Alors vous m'excuserez si je vous emmerde avec la vie privée de ce Bernard Houillon, plus connu sous le nom de Lavillier. C'est là qu'on comprend qu'il a besoin de tous ses petits muscles pour défendre son patronyme. Son leitmotiv, c'est « Faites l'amour, pas la guerre ». Bernard Houillon, dit Lavillier, lui, aura connu les deux. Entre un père ouvrier dans l'armement et une mère instite, il ne sait quel camp choisir et son cœur balance très vite entre devenir futur champion de boxe ou ressusciter les compagnons de la chanson qu'il admire. Finalement, il travaillera avec papa, mais adhérant au parti communiste, il passe plus de temps dans les manifs qu'à l'usine. Résident d'une maison de correction, il se découvre une oreille musicale et passe son temps libre à écrire des chansons. Poète, son œuvre tourne autour de Léo Ferré, dont le premier morceau, Préface, que je vous présente.
scène ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. À menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qu'il ne faut pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire qui consiste en poésie à n'employer que certains mots déterminés à la privée de certains autres me fait penser au prestige du rase-doigt et du baise-main. Ce n'est pas le rase-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit appartenir à une caste, à un parti ou au tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui foncent en rond, les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rudolf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique. Et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme du savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir? Avec nos avions qui dament le plomb au soleil, avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues, nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendications. Le ver doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas, on se bat.
À 19 ans, il fuit la France pour le Brésil où il restera 2 ans. Mais en désertant son service militaire, il est recherché, arrêté puis incarcéré dans une forceresse disciplinaire à Metz. Désireux de ne plus rater une seule seconde de sa vie, il se lance tête baissée dans la musique. Il se produit dans un bar latino de la capitale, puis chante en tête des cortèges de mai 68. Son esprit contestataire séduit et lui permet d'enregistrer en 71 un premier album, Les Poètes. Effectivement, le slam n'existait pas, on l'appelait à ce moment-là la poésie, mais aujourd'hui ça fait totalement ringard. Donc le deuxième titre que je vous propose, c'est La Politique, extrait des Poètes, 71.
Cerclé de portefeuille, stomacal et livide, gonflé par l'illusion et dévoré par l'art, vidé par l'insondable, guidée par la victoire. Elle avance, tordue, sur un rebord de nappe. Avec des gloussements qui ressemblent à des rires. Le crâne luisant fort sur la génuflexion. Elle fait de l'amertume une sœur mobile et voit dans son vieux couple un semblant de pomme. Avec le geste rare et le regard chagrin, dans sa fonction assise comme une courtisane, elle mâche le destin au milieu des tisanes et fait des armatures aux fumées des Havanes. Par un rôle fabuleux, dégueulant sur la vie, tout en prenant pour cause une portion d'azur, purulent de serments et remourant d'ennui ses ongles noirs, s'enfonce dans les cerveaux trop mûrs. Puis, ses dents jaunes, les ordres généreux que des fils tordus par l'âge raisonnable avaient déposés là, étonnés et peureux, comme la vérité dans le fond d'un cartable. Positive. Inquiète. Pour souffler. La politique molle qui goûte sur le banc, tandis qu'agonisant derrière le mépris, Bakounine, le rieur, écrit son testament.
La politique, suivie 4 ans plus tard du second, le Stéphanois bien évidemment, raconte les mémoires d'un billet de banque qui est cher à mon cœur, car j'ai connu aussi les affres d'un billet de banque. Il préférera tout de même son bateau à la Seine et sera à New York, en Jamaïque et au Brésil. L'envie de compter ses voyages se fera d'ailleurs très forte dans ses albums, tel le troisième couteau qu'il écrit beaucoup plus tard en 1994. Ce n'est pas du slam, c'est de la poésie. Il ne quittera plus jamais les routes, qu'elles soient de France ou d'ailleurs.
Christian, tu dis que c'est plutôt de la poésie et pas du slam, alors pourquoi nous présenter cet artiste aujourd'hui ?
Je vous ai présenté cet artiste aujourd'hui parce qu'il se trouve qu'il y ait des gens qui faisaient de la prose sans le savoir, et il y ait des gens qui faisaient du slam sans le savoir, puisqu'effectivement, le mot slam n'existait pas. Je considère que Léo Ferré et Lavilliers font du slam d'une autre valeur que certains slameurs dont je dirai le nom.
Merci Christian pour cette agréable présentation, merci Eva encore, et merci Léo Robert. C'était au slam, etc., avec les slam-timbanques. Venez crier vos écrits, vous, les créateurs, poètes, lecteurs, déclameurs, hurleurs. Notre scène vous est ouverte les deuxièmes jeudis du mois au Matin Céladon, à la médiathèque de Limoges, et les quatrièmes jeudis du mois au Round Midnight, au 12 avenue Gabriel Péri, à proximité de l'hôtel de région de Limoges, à partir de 21h30 dans les deux cas. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, et on se quitte avec une figure du slam parisien, Félix J., et le titre, merci, merci.
Si vous n'avez pas fait l'école, envoyez-nous vite la cassette. Merci à toute mon équipe, merci à tous mes producteurs. Vous êtes puceaux slash pucelles, venez ici témoigner. Merci à toute mon équipe, merci à tous mes producteurs. Si vous voulez vous supprimer, envoyez-nous le DVD. Merci à toute mon équipe, merci à tous mes producteurs. Si vous êtes poète, envoyez-nous vite la cassette. Merci à toute mon équipe, merci à tous mes producteurs. dans un taudis. Envoyez-nous vite la cassette. Merci à toute mon équipe. Merci à tous mes producteurs. Si votre enfant est obèse, envoyez-nous vite des photos. Merci à toute mon équipe. Merci à tous mes producteurs. Si vous n'avez pas d'argent, envoyez-nous vite des factures. Merci à toute mon équipe. Merci à tous mes producteurs. Si vous êtes poète, envoyez-nous vite la cassette. Merci à toute mon équipe. Merci à tous mes producteurs.
Merci à toute mon équipe. Merci à tous mes producteurs.
Merci. Oh merci. 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 Merci.
Dans la chaleur de la nuit, mon coupé italien me procure un feeling extraordinaire. Je ferme les yeux en caressant le cuir de la gaine, du poumon, de l'accélérateur. La créature surdiplômée qui m'accompagne acquiesce. Elle acquiesce quand on prend une coupe de champagne dans notre penthouse rue de Marignan. On a les quairons, les graviers, on a les portails avec traces de soudure sur les gonds et des jardinets. On a des voies d'accès et des peintures de signalisation fraîches. On dirait qu'on va pas rester. C'est ce que dit le limonadier qui a installé des tables et des chaises devant son Algeco. Il fait le plan en été à train. Il pourra construire en dur bientôt. Ne soyez pas à la mode, ne frappez pas avant d'entrer. N'apprenez pas toutes les techniques pour plaire. N'affirmez pas votre personnalité, ne faites pas l'unanimité. Ne tapez pas du pied, ne levez pas les bras avec moi. Descendez sur la voie, ne repartez pas avec un souvenir. Ne sachez pas dire non, ne soyez pas en but. N'appelez pas le chef de la station, ne composez pas immédiatement le 0892-202-203. Dormez pas bien, ne soyez pas performant, ne passez pas une journée avec votre chanteur préféré. En cas de danger, ne tirez pas la poignée. Si vous êtes un poète, envoyez-nous vite la cassette.